L'invité de Christelle Morancé.
Christelle Morancé, présidente de la région des Pays de la Loire, dialogue avec Jérôme Fourquet, sondeur et analyste politique.
Jérôme Fourquet est un sondeur et analyste politique français, spécialiste de géographie électorale. Né au Mans en 1973, il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Rennes et d'un DEA de géographie à l'Université Paris 8. Actuellement directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'Institut de sondage IFOP, il est l'auteur de nombreux ouvrages dont L'archipel français aux éditions Seuil en 2019 et La France sous nos yeux avec Jean-Laurent Casselli aux éditions Seuil en 2021. Son dernier essai, La France d'après, tableau politique, est publié chez Seuil, vient de paraître en octobre 2023. Christelle Morancé, la mancelle que je suis ne peut pas débuter cet entretien sans évoquer nos racines communes. Vous revendiquez vos origines sartoises, votre scolarité au Mans, vos attaches dans le Grand Ouest. Comment cette géographie intérieure a-t-elle joué dans votre parcours et votre capacité à saisir la vérité de notre pays à travers ces grandes ruptures, mais aussi des choses en apparence plus anodines comme nos habitudes de vie ou de consommation ?
Jérôme Fourquet, je suis né au Mans, j'y ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac, avant de poursuivre mes études supérieures à Rennes, puis à Paris. Ma famille vit au Mans et dans la Sarthe. J'ai mes attaches, et pour citer Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. Finalement, j'ai vécu plus longtemps à Paris que dans la Sarthe, mais mes années là-bas ont compté double. Je réalise avec l'âge qu'elles furent fondatrices, qu'elles ont pesé dans ma construction personnelle et dans ma façon de lire la société française. Paris n'est pas la France, et le territoire national ressemble davantage à une ville comme Le Mans qu'à des arrondissements parisiens. Je suis resté très attaché à cette réalité-là.
Christelle Morancé, pour poursuivre sur le Grand Ouest, vous observez une réalité que j'expérimente chaque jour et qui est notre plus grande force, cette capacité à créer du collectif et des coopérations à tous les niveaux de la société. Qu'est-ce qui explique ce tempérament et peut-il nous sauver de ce grand malaise français que nous traversons et de nos difficultés à faire nation ?
Jérôme Fourquet, il faut remonter loin dans l'histoire et convoquer l'empreinte du catholicisme, son influence persistante dans les pays de la Loire comme en Bretagne, en Alsace ou dans le Pays Basque, s'explique d'abord par l'éloignement de ces régions du centralisme parisien et jacobin, un éloignement qui a diffusé d'abord dans les élites locales puis dans l'ensemble de la société l'idée que l'on ne doit pas tout attendre de l'État, qu'il faut s'organiser et compter sur ses propres forces. Cette culture est le fruit d'une géographie, d'une histoire parfois conflictuelle avec l'État. On pense aux guerres de Vendée et à la chouannerie et d'un rapport particulier au centralisme. Tout cela se traduit notamment par la place importante de l'école privée, la forte densité du tissu associatif, du mouvement mutualiste et du système coopératif agricole. Et ce n'est pas un hasard si le département du Maine-et-Loire est en pointe dans le regroupement des communes. Cette matrice spécifique a généré ses propres anticorps, une dynamique économique forte, un tissu de PME familiale diversifié et qui travaille en réseau, un taux de chômage significativement plus bas que la moyenne nationale et divers indices aussi variés qu'éclairants, taux de propriété de résidence principale et de réussite au bac plus élevé, taux de recours à l'IVG et de famille monoparentale nettement inférieur à la moyenne nationale, etc. Nous sommes en présence de sociétés locales assez cohésives et résilientes et qui apparaissent un peu moins archipélisées et fragilisées qu'ailleurs en France.
Christelle Morancé, l'autre grande caractéristique de notre région, c'est la faiblesse du chômage et le rapport singulier que nous entretenons avec le travail qui est vu comme une valeur cardinale de notre société. Pourtant, un phénomène intervenu à la suite du Covid s'installe, c'est l'idée que le travail n'occupe plus la même place que par le passé et qu'il faut articuler nos existences autrement. Certains vont même jusqu'à parler de grande démission. Est-ce un phénomène réellement notable ? Est-il durable ? Quelles conséquences porte-t-il en germe ?
Jérôme Fourquet, il faut partir de la réalité régionale. Des territoires entiers étaient déjà au plein emploi avant le Covid, comme le Bocage vendéen ou la Mayenne. Avec la reprise économique et la baisse nationale du chômage, la pénurie de main-d'œuvre s'est aggravée. Et parallèlement, on note effectivement une accélération du changement de notre rapport au travail, qui était déjà à l'œuvre avant la pandémie, mais qui a encore progressé depuis. Le travail continue d'être important dans la vie des Français, mais ils sont de moins en moins nombreux à le considérer comme centrale. C'est ce que l'on a appelé la perte de centralité du travail. Concrètement, si l'on considère le littoral ligérien, on observe d'un côté des difficultés de recrutement dans un secteur comme l'hôtellerie-restauration, avec des collaborateurs qui ne veulent plus reprendre le rythme de travail d'avant, horaires hachés, travail en soirée et le week-end, etc. Et de l'autre, une survalorisation de la vie personnelle, des temps de loisirs et récréatifs qui alimentent la bonne santé économique de secteurs économiques essentiels. On le voit avec les chiffres de fréquentation records du Puy du Fou ou de nos villes touristiques. Et à cela se surajoute le phénomène du télétravail avec une réalité frappante. Les TGV au départ de Paris en direction de Nantes, La Baule, Saint-Nazaire sont désormais pris d'assaut dès le jeudi midi. Vivre et travailler au pays des vacances, à travers ce slogan, la municipalité de La Baule a parfaitement diagnostiqué ce nouveau phénomène qui n'est d'ailleurs pas réductible au littoral.
Christelle Morancé, agir pour la jeunesse est au cœur de mon engagement politique. Je déplore l'image que l'on dresse trop souvent de nos jeunes. Ils seraient désabusés, anxieux et déprimés. Et sans nier les difficultés qui existent, j'observe au contraire que nos jeunes sont pétris d'idéaux, de rêves et d'ambitions. En revanche, je ressens une profonde déconnexion entre les codes du débat démocratique qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils se détournent, et leur désir de s'engager, notamment pour la sauvegarde de notre environnement. Où en sont réellement les jeunes avec la démocratie et ses représentants ? Comment renouer un dialogue fécond ?
Jérôme Fourquet, la France a accompli une révolution silencieuse en 40 ans. En 1991, l'année de ma terminale, 30% d'une classe d'âge parvenait au bac. Aujourd'hui, on atteint plus de 80%. Nous sommes donc face à une jeunesse très massivement diplômée, même si cette donnée recoupe des réalités très disparates. Une jeunesse qui se construit sur un modèle très différent des générations précédentes, notamment dans ses pratiques informationnelles, recours massif aux réseaux sociaux et beaucoup moins à la presse écrite, la radio et la télévision. On observe également une distance assez forte avec le débat public et la façon dont il est mené. À l'heure de l'instantanéité, de la livraison à domicile et des réseaux sociaux, le temps politique qui implique du temps long apparaît en décalage. Les termes, les sigles, les références du débat public résonnent pour nombre de jeunes comme une langue morte. Et pour certains d'entre eux, le vote, qui est la clé de voûte de la participation citoyenne, semble même désuet à côté des pétitions ou des cagnottes en ligne que proposent les plateformes. Il faut donc trouver les voies et les moyens de maintenir le contact autour des thèmes d'intérêt général qui les mobilisent, comme la transition écologique. Et même si c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut réinterroger en profondeur les sujets, les termes, les modalités de l'engagement civique.
Christelle Morancé, vous pointez régulièrement la fonction essentielle du train dans l'équilibre des territoires. Le rôle des régions est précisément de relier nos villes et nos campagnes. C'est un engagement de tous les instants qui implique des moyens colossaux et une énergie folle pour sauver et développer nos lignes TER après des décennies de sous-investissement public. Et quel rapport les Français entretiennent-ils avec le train et plus globalement avec la nécessité d'un mode de transport écologique ?
Jérôme Fourquet, il y a différents types de trains, schématiquement le TGV et les autres. Le TGV est un formidable outil technologique, mais qui s'adresse plutôt à une certaine population, CSP+, cadres et touristes. Le train du quotidien, dont la vocation est de répondre à des besoins de déplacement plus courts et plus fréquents, s'adresse quant à lui majoritairement à des catégories de salariés pour leur trajet domicile-travail. Au cours des décennies passées, on a plutôt privilégié, y compris pour des raisons de rentabilité, le réseau à grande vitesse, mais on prend aujourd'hui la mesure de l'importance du train dans l'aménagement du territoire, aussi bien pour le transport de passagers que de marchandises. On rappelle qu'en 1973, 45% du fret de marchandises circulait sur les rails, contre moins de 10% aujourd'hui, avec les conséquences que l'on imagine sur le plan écologique. On constate par ailleurs qu'en matière d'offre de train du quotidien, la région des Pays de la Loire est plutôt bien placée. Si on compare la situation autour de Nantes avec la métropole bordelaise, on observe que la densité de trains est plus forte en Loire-Atlantique, et ce n'est sans doute pas un hasard si Bordeaux a été l'épicentre du mouvement des Gilets jaunes, avec énormément de navetteurs prenant au quotidien leur voiture pour venir travailler à Bordeaux, davantage que Nantes. Le président de la République a annoncé la mise à l'étude des RER métropolitains autour des grandes métropoles, mais j'imagine que la région ne l'a pas attendu pour y travailler. C'est un enjeu fort en termes d'aménagement, d'écologie, mais aussi de budget pour les ménages modestes et de la classe moyenne. Le train, s'il est fiable, suffisamment cadencé et qu'il bénéficie d'une politique tarifaire adaptée, est une vraie alternative pour une large catégorie de salariés qui voit son pouvoir d'achat contraint par l'inflation et l'installation durable du prix des carburants à à des niveaux historiques, ce qui, à terme, peut freiner ses capacités de mobilité, ce qui est évidemment insupportable. Mais ne vendons pas de rêve, on peut développer l'offre de train, mais on ne mettra pas du rail partout, d'où l'intérêt en parallèle de travailler à des alternatives concrètes, comme le covoiturage, qui se développe bien dans votre région.
Christelle Morancy. Pour ma plus grande joie, vous avez récemment déclaré que l'industrie est redevenue tendance. Après des décennies de désindustrialisation et une forme de dénigrement, l'image entretenue, y compris au sommet de l'État, d'une industrie façon germinale, a eu la peau dure. Comment expliquez-vous ce revirement ?
Jérôme Fourquet, une bataille culturelle a été menée qui a permis de sensibiliser le grand public sur le désastre de la désindustrialisation à l'œuvre depuis 30 ans. Emmanuel Macron en a fait un cheval de bataille, de nombreuses régions et acteurs économiques ont pris le relais et la crise Covid a brutalement révélé aux Français qu'on ne produisait plus un gramme de paracétamol en France. On a collectivement compris qu'il fallait relever notre industrie et que le renouveau industriel passerait aussi par le prisme écologique, comme on le voit par exemple à Saint-Nazaire avec la filière éolienne en mer. Mais deux obstacles principaux restent à surmonter. Comment attirer des talents et des bras dans un contexte marqué par les pénuries de main-d'œuvre et comment attirer des jeunes et en particulier des jeunes femmes vers les métiers de l'industrie qui, en dépit de salaires souvent plus attractifs, souffrent encore d'une image négative. L'autre écueil à dépasser, c'est le choix des territoires d'implantation des projets industriels qui, en dépit du soutien de l'État et des collectivités, peuvent faire l'objet d'oppositions, et vous l'avez vécu dans votre région, venant de collectifs qui, bien que peu nombreux, maîtrisent les arcanes juridiques et savent, à coup de recours, perturber les projets et parfois dissuader les investisseurs. Et à cela s'ajoute évidemment la complexité bureaucratique qui implique pour un même projet, par exemple, la création d'un biométhaniseur deux fois plus de temps en France qu'en Allemagne. Beaucoup a été fait pour démontrer les bienfaits de l'industrie. Des efforts qui méritent d'être poursuivis ont été engagés sur la fiscalité, mais il faut maintenant mener la bataille pour simplifier et faciliter la réalisation concrète des projets. En ce sens, les régions ont un rôle important à jouer.
Christelle Morancy. En vous appuyant sur une multiplicité de facteurs, vous analysez ce qui conditionne en grande partie le vote des Français. C'est absolument passionnant, mais à vous lire, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver une forme de vertige. Sommes-nous à ce point conditionnés par nos origines, nos revenus, nos habitudes de vie et de consommation ? N'y a-t-il plus rien qui nous rassemble au-delà de ces déterminants matériels ? Et au fond, et c'est le rôle premier de la politique que l'on veut interroger, vivons-nous encore ensemble ou vivons-nous les uns à côté des autres et peut-être même demain les uns face aux autres ?
Jérôme Fourquet, ma démarche analytique est adaptée à la société qui est la nôtre. Une société qui est marquée par l'effondrement des grandes matrices politiques, philosophiques et religieuses que sont typiquement le communisme et le catholicisme. Notre région a longtemps été structurée autour du conflit entre les bleus et les blancs au cours de la Révolution et qui s'est décliné notamment autour de l'école laïque et privée. Tout ceci formait un cadastre politique assez clair. Deux sociétés vivaient en silo et de façon très organisée et structurée. Ce modèle a volé en éclat au cours des dernières décennies. Les grands récits ne structurent plus notre société qui s'est peu à peu archipélisée selon les lignes de fracture que sont le lieu où vous vivez, le niveau de vos études et de plus en plus votre mode de vie. Il y a ceux qui prennent le TGV et ceux qui prennent leur bagnole. Il y a ceux qui ont fait construire, comme on dit chez nous, et ceux qui sont locataires en appartement, etc. Pour comprendre comment se noue le vote des Français, et parce que les grands récits n'opèrent plus, il faut désormais passer par cette multitude de filtres pour parvenir à saisir la réalité française. La noblesse du politique, c'est de recréer du commun. Et dans un premier temps, on peut imaginer qu'il est plus facile de bâtir du collectif à partir de l'échelon local, commune, département, région, qu'à partir de l'échelon national. Les politiques locales parviennent encore à transcender les clivages et les appartenances sociales.